Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Le Captagon est une amphétamine facile à produire et bon marché. Elle était à l'origine prescrite pour calmer l'hyperactivité et la narcolepsie. Mais aujourd'hui, c'est une drogue surnommée la cocaïne du pauvre, très prisée de la jeunesse saoudienne, mais pas seulement. Et à la faveur de la guerre civile, la Syrie est devenue un centre de production de diverses drogues, dont le Captagon, qui fabrique, qui consomme, qui profite de son commerce. La rédaction de RFI a mené l'enquête et proposera la semaine prochaine une série de grands reportages sur le Captagon. Orient Hebdo reçoit ce samedi les trois journalistes qui ont remonté la filière. Ensuite, nous lirons les grands titres de la presse régionale, Israël et Monde Arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Nous suivons donc la piste du Captagon. Captagon Connexion, c'est le titre de la série. Et pour cela, nous avons avec nous en studio Nicolas Falaise. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas Feldman. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et depuis Dubaï, Nicolas Kérodrin. Bonjour Nicolas.
Bonjour Eric.
Un mot d'abord de ce Captagon, de quoi s'agit-il et quel est le problème avec cette substance, Nicolas Falaise ?
Une petite pilule fabriquée artisanalement puisqu'il s'agit d'un produit illégal, d'une drogue. Alors le Captagon a une histoire, hein, son nom vient d'un médicament. La substance dont il s'agit, c'est l'amphétamine. Donc on parle là d'une drogue qui maintient éveillé, qui donne une sensation d'énergie, voire de puissance. Hein. Ce n'est pas du tout une drogue qui fait planer ou rêver ou avoir des hallucinations. Et donc c'est une drogue qui se vend assez peu cher dans les pays où elle est consommée et que l'on a vu exploser littéralement en termes de production, de trafic et de consommation ces dernières années, précisément au Moyen-Orient.
Alors justement, comme toute drogue, le Captagon, vous l'avez dit, est sujet à du trafic, à d'énormes bénéfices et à des conséquences sociales importantes, notamment sur le plan de la santé. Nicolas Feldman, quelle est l'ampleur du phénomène ?
Alors, nous, ce qui nous a poussé à nous intéresser à ce sujet, c'est vraiment la place qu'a pris ces dernières années cette petite pilule dans le Moyen-Orient. C'est à la fois devenu un sujet de santé publique, une priorité politique pour de nombreux États et aussi un objet de tension entre les États, un objet géopolitique. Aujourd'hui, le Captagon, c'est un trafic qui implique une multitude d'acteurs. On a des petits trafiquants, on a aussi des groupes armés qui sont structurés et aussi des États. On a notamment une source diplomatique qui nous parle de la Syrie, qui est perçue comme un État producteur et qui est qualifié par une source diplomatique occidentale de narco-État. Et puis, vous parliez d'énormes bénéfices. En mai, on a une étude très intéressante, assez fouillée, qui est sortie, publiée par Newsline Institute, c'est un think tank américain. Et il chiffre le trafic de Captagon au Moyen-Orient à 5 milliards de dollars pour l'année dernière. Et puis, partout dans la région, on voit que ce trafic est en hausse et ça s'illustre avec des saisies dans tous les pays de la région.
Et l'on imagine que cette enquête n'a pas été une partie de plaisir, Nicolas Kérodrin.
Oui, ça n'a pas été un sujet facile sur lequel travailler, puisque le Captagon est un sujet tabou, une question sensible au Moyen-Orient et en particulier dans les pays du Golfe. Alors, lorsqu'il s'agit de parler des saisies qui sont d'ailleurs fréquentes aux frontières des pays du Golfe, les autorités sont plutôt enclines à communiquer là-dessus. Récemment, un officiel saoudien a d'ailleurs révélé que 600 millions de pilules de Captagon ont été saisies aux frontières de l'Arabie Saoudite au cours de ces 6 dernières années, plus de 190 millions uniquement l'année dernière. En revanche, lorsqu'il s'agit de parler de consommation à l'intérieur de ces pays du Golfe, eh bien le sujet est plus compliqué car il est difficile de trouver des statistiques officielles et aussi des interlocuteurs qui, même si on peut garantir l'anonymat à ces sources, refusent bien souvent de s'exprimer sur le sujet.
Trois journalistes pour suivre la piste du Captagon, c'est un luxe plutôt rare dans les rédactions. Nicolas Falaise, comment vous êtes-vous réparti les tâches ?
Alors, on a découvert avec Nicolas Feldman et Nicolas Kérodrin que l'on commençait à s'intéresser au sujet et à le creuser au même moment. Donc, l'envie a été très très forte de travailler ensemble et nous avons été suivis par la rédaction en chef de RFI pour ce projet qui, devait nous faire approcher de zones d'ombre, hein, puisqu'il s'agit d'une activité criminelle, hein, celle d'un trafic. Donc il fallait évidemment s'approcher de la source et s'approcher de la consommation. Nicolas Quérodrin, qui est installé dans le Golfe, s'est rendu dans plusieurs pays de la région, notamment le Koweït, pour enquêter dans la zone dont il s'occupe et où il est installé. Nicolas Feldman est allé en Jordanie, à Amman et à la frontière syrienne. Personnellement, je me suis rendu au Liban, Beyrouth et la frontière syrienne. L'importance des frontières est évidente, hein. On parle d'un trafic. La question des frontières terrestres, mais aussi maritimes et aéroportuaires, est essentielle dès lors que l'on parle de ce trafic.
Alors, dans le premier épisode, on peut entendre aussi bien des consommateurs qu'un trafiquant. Nicolas Feldman, cela a-t-il été compliqué pour vous de les trouver ? Quel accueil vous ont-ils réservé ?
Alors, moi, donc, comme le disait Nicolas Fallès, j'étais à Amman, notamment. Trouver des consommateurs à Amman, c'est pas quelque chose de difficile parce qu'il y a un aspect récréatif qui se démocratise. Le captagon, c'est une drogue qui circulait initialement beaucoup auprès des travailleurs, des conducteurs de poids lourds, par exemple, ou de taxis. Et de plus en plus, on voit que cette drogue a aussi un côté récréatif. Donc, on la retrouve dans des soirées. J'ai été surpris, par exemple, de voir des expatriés, notamment, qui me confiaient prendre du captagon. Donc, l'accès à ces consommateurs n'est pas difficile. Ce qui est plus compliqué, en revanche, c'est de les enregistrer au micro. Mais si on prend les précautions nécessaires, Nicolas Quérodrin en parlait dans le Golfe notamment, à savoir protéger les sources, là j'ai réussi à accéder sans trop de difficultés à ces consommateurs. Là où ça a été plus compliqué en revanche, c'est la question du dealer. On a dans le premier épisode un dealer, on a retranscrit ses propos, mais voilà, les conditions pour que lui nous parle ont été un peu délicates, mais au final il a accepté de nous décrire une partie de cette route, lui qui se trouve vraiment sur la route entre la frontière syrienne et Amman, là où il écoule notamment une partie des pilules.
Oui, on peut comprendre cette réserve de la part de ce trafiquant. Nicolas Quérodrin, quels ont été vos rapports avec les autorités locales lorsque vous avez enquêté, que ce soit d'ailleurs celle des États ou par exemple des autorités portuaires à Koweït ?
Alors ce rapport avec les autorités koweïtiennes, il a été absolument nécessaire, car c'est grâce aux liens que j'ai pu avoir directement, notamment avec le ministère des Affaires étrangères du Koweït, que nous avons pu obtenir un rendez-vous au port de Chouer, qui est le principal port commercial du Koweït. Lorsque j'ai décidé de me rendre au Koweït, j'ai écrit un mail au ministère des Affaires étrangères pour obtenir mon visa presse. Et dans ce mail, j'ai explicitement spécifié que je travaillais sur le captagon. Donc je pense que sans cette sorte de tampon d'une autorité officielle du Koweït, on aurait du mal à obtenir certains rendez-vous.
Avez-vous une idée de qui fabrique le captagon en masse et donc, Nicolas Fallès, à qui profite le trafic ?
Alors, c'est quelque chose qui se précise hein, en enquêtant, même si, encore une fois, on navigue ici dans des zones grises. Les rapports des Nations Unies et d'autres enquêtes non partisanes désignent la Syrie et le Liban comme principal pays où le captagon est produit. Ce que l'on entend également, c'est que le régime de Bachar el-Assad, dans un pays ruiné par une décennie de guerre, a eu besoin à un moment de se procurer des sources de financement nouvelles. Évidemment, on reste très très prudent hein, sur la nature de l'implication directe ou indirecte de différentes sphères du pouvoir ou des forces armées syriennes dans ce trafic. Reste que un faisceau de présomption important, mais aussi des accusations partisanes dans la région, désigne le régime de Bachar el-Assad comme acteur et bénéficiaire de ce trafic, de même que les alliés de la Syrie dans la région, que peuvent être le Hezbollah libanais ou d'autres groupes armés liés à la Syrie et à l'Iran. Donc on voit bien que ce trafic, il est né finalement sur les fractures politiques, géopolitiques de la région et très probablement était entretenu par les conséquences de la guerre en Syrie.
Toujours avec vous, Nicolas Fallès, dans l'épisode 3, vous posez la question des conséquences géopolitiques de ce trafic dans la région. Quelles sont ces conséquences et sur quoi vous basez-vous pour tirer ces conclusions ?
Alors, si le trafic de captagon a des origines géopolitiques, il a aussi des conséquences géopolitiques, effectivement. Celle qui est peut-être la plus visible, hein, c'est la décision de l'Arabie Saoudite, il y a quelques mois, de couper totalement son flux d'importation en provenance du Liban. L'Arabie Saoudite en a eu assez de trouver des millions de pilules de captagon dans les oranges ou les bananes ou les sachets de thé en provenance du Liban. Ce qui provoque à la fois un problème économique pour les producteurs libanais qui sont déjà dans une situation difficile dans leur pays et évidemment des tensions entre États qui ont tendance, on le voit, à s'accuser d'être ou à l'origine, ou complices, ou négligents par rapport à un trafic qui pose des questions de sécurité et aussi de santé publique dans les pays où une partie de la population consomme cette drogue.
Alors au sein même des États, la lutte contre cette drogue pose des questions de sécurité, de santé publique et même de justice. Qui faut-il pénaliser, des consommateurs ou des trafiquants? A-t-il été aisé pour vous d'obtenir des réponses, Nicolas Feldman?
Alors, du côté des autorités jordaniennes, en dépit de nombreuses demandes d'interview, ils n'ont jamais vraiment donné suite, que ce soit l'armée, qui est notamment chargée de contrôler le trafic à la frontière, ou la police, qui, elle, est en charge de la lutte contre le trafic de drogue. C'est pour ça qu'on sait, moi en tout cas, je me suis orienté du côté des associations. Il y a une association qui est très intéressante, qui existe depuis 10 ans, qui s'appelle la Jordan Anti-Drug Society, donc qui est chargée d'accompagner les consommateurs de drogue et qui a fait aussi un gros travail du côté du plaidoyer, qui essaye de changer la loi. Et son angle d'attaque, un de ses combats, c'est notamment de moins pénaliser le consommateur et davantage de porter l'effort sur les trafiquants. Ils ont obtenu une petite victoire il y a quelques mois, puisque les peines ont été renforcées pour les dealers, les trafiquants. On parle aujourd'hui de peines qui vont jusqu'à 10 ans de prison. En revanche, là, ce qu'ils aimeraient, c'est un meilleur accompagnement aujourd'hui pour les consommateurs, qu'on arrête de les soumettre soit à des amendes, soit à des peines de prison qui peuvent aller de 1 à 3 mois, mais davantage qu'on soit là pour les accompagner, pour les aider à sortir de cette dépendance qu'est le Captagon.
Nicolas Kérodrin, sur cette question judiciaire, si je peux dire, dans le Golfe, qu'en est-il ?
Alors, comme je le disais en introduction, la question de la consommation à l'intérieur des pays du Golfe, c'est une question sensible. Donc il est assez difficile d'obtenir des informations là-dessus. Néanmoins, on sait que les législations dans ces pays en matière de drogue sont extrêmement strictes, que ce soit d'ailleurs pour les consommateurs, mais aussi pour les trafiquants, qui, dans certains cas, encourent parfois la peine de mort.
Merci à tous les trois. Merci trois Nicolas, Nicolas Falaise, Nicolas Feldman et Nicolas Kérodrin. Cette enquête sur la production, le trafic et la consommation du Captagon sera diffusée la semaine prochaine sur l'antenne de RFI. Une série de 4 grands reportages du lundi au jeudi à 11h10 et 19h40 TU. J'en rappelle le titre, Captagon Connexion.
Orient Hebdo sur RFI.
Pas si vite,
tout va trop vite,
bien trop vite,
tout va si vite,
pas si vite,
tout va trop vite,
ralentissons, pas si vite, allez, allez.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem pour lire la presse de la semaine avec Alexandre Bouchanti. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour.
À la une de vos journaux, Alexandre, les relations tendues entre Israël et le Liban à propos d'un champ gazier en Méditerranée orientale.
Des tensions exacerbées, selon la presse, par les dernières déclarations du chef du Hezbollah, le cheikh Hassan Nasrallah, qui affirme que la résistance libanaise est prête à défendre par les armes les frontières économiques du Liban. Ce à quoi le chef d'état-major israélien a répondu que la réaction de l'État hébreu sera dévastatrice, indiquent les journaux arabes. Une tension qui, selon des reportages, s'est traduite par le départ de nombreux habitants du sud Liban qui craignent une réédition de la guerre de juillet 2006 entre le Hezbollah et Israël. Le différend frontalier concerne la ligne des eaux économiques entre le Liban et Israël et qui, selon le tracé retenu, accorde à Israël ou au Liban tout ou une partie du champ gazier de Karish. Mais la plupart des experts cités par la presse arabe pensent qu'une guerre pour le gaz n'est dans l'intérêt d'aucune des deux parties et que la médiation américaine devrait pouvoir régler à terme le différend. Israël aurait ainsi le champ gazier de Karish et le Liban celui potentiel de Cana. Toutefois, les analystes redoutent une instrumentalisation iranienne via le Hezbollah qui mettrait le feu aux poudres si Téhéran n'obtient pas satisfaction dans les négociations sur le dossier nucléaire.
Michel Paul, à la une de vos médias, la crise gouvernementale israélienne et la visite du président américain.
Mais qui sera le premier ministre israélien qui recevra le président américain ? Eric, c'est le 13 juillet prochain que le chef de la Maison-Blanche doit se rendre à Jérusalem pour une première visite officielle tant attendue qui pourrait, selon les médias, marquer un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Le gouvernement israélien tiendra-t-il le coup d'ici là ? Pas sûr, à en croire les commentateurs. L'interlocuteur de Joe Biden pourrait être soit l'actuel chef du gouvernement Naftali Bennett, soit le premier ministre alternant Yair Lapid, et moins probable, mais pas tout à fait impossible, le revenant Benjamin Netanyahou. Bennett a l'intention de se battre jusqu'au bout, soulignent les médias en Israël. Le vrai test pour l'actuel premier ministre est de persuader les députés de la majorité de rester avec lui, mais le scénario que l'on retrouve le plus souvent est celui des élections, les cinquièmes en moins de 3 ans et demi, qui pourraient, en toute vraisemblance, se dérouler à la rentrée. Pour Mansour Abbas, le chef du parti islamique Ra'am, membre de la coalition, une consultation électorale pourrait être nécessaire pour remettre les compteurs à zéro et revenir au point de départ. Et puis aussi, le scénario le plus fou, Bennett et Bibi se mettent d'accord pour former ensemble un gouvernement. Les deux parties démentent l'existence de tels pourparlers, mais Eric, allez savoir, dans cette région du monde, c'est souvent le plus improbable qui se produit.
En effet, Alexandre Bouchanti, la communauté des Yézidis lance un appel à une protection internationale et les journaux d'Irak et panarabes s'en font l'écho.
Oui, un appel de parlementaires yazidis après le bombardement d'un village par des drones turcs qui a fait 2 morts, dont un enfant de 12 ans, indiquent les journaux. Les Turcs accusent certaines factions yazidis de s'être alliés avec les indépendantistes kurdes du PKK. Les yazidis sont cette minorité ethnico-religieuse qui avait été persécutée par le groupe État islamique. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants avaient disparu. Ils ont été soit tués, soit réduits en esclavage et vendus. L'appel des Yazidis à la communauté internationale est dû au fait que le pouvoir et le parlement irakien sont paralysés par une crise politique, précisent les journaux.
En bref, Michel Paul, les autres sujets qui font l'actualité chez vous ?
Cela se réchauffe dans le nord de la Cisjordanie, échange de tirs dans la région de Jenin, les forces israéliennes abattent 3 Palestiniens armés, et puis c'est une alerte de la cellule antiterrorisme israélienne qui occupe la une de tous les médias, danger clair et immédiat d'attaques anti-israéliennes sur le territoire turc, des représailles iraniennes après la mort mystérieuse de plusieurs responsables et scientifiques iraniens. Le problème, c'est que les touristes israéliens préfèrent, eux, continuer leurs vacances tranquillement en Turquie. Autre sujet, une vague de grève qui paralyse Israël. Les personnels médicaux protestent contre des agressions contre des médecins et des infirmières. Les enseignants et les chauffeurs d'autobus ont des revendications salariales et pour couronner le tout, démissions en série des rangs de la police. Dans les jours qui viennent, cela pourrait se traduire, Eric, par une grève générale.
Et l'image que vous avez retenue, Michel, pour nous cette semaine ?
Eh bien, c'est la photo de Avram Bey Yoshua, l'un des plus grands écrivains israéliens, l'auteur de L'Amant et Au début de l'été, est mort d'une suite d'une longue maladie à l'âge de 85 ans. Sioniste ardent et homme de gauche, il était un des défenseurs les plus convaincus de la cause palestinienne en Israël.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golshani. Pour nous écouter, un site, RFI.fr, une application, Pure Radio et aussi la plupart des plateformes numériques. Demain, pas d'émission, nous cédons, comme la semaine dernière, la place à la politique française avec une soirée complète consacrée cette fois au second tour des élections législatives. À samedi prochain, dans un instant, le journal.